Mondial Sport sur RFI.
Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Il y aura du basket au sommaire de ce numéro de Mondial Sport. Pour cela, rendez-vous en fin d'émission. Il y aura aussi beaucoup, beaucoup de football. Bonsoir Eric Chorin.
Bonsoir Hugo Moissonnier.
Alors si vous êtes là, c'est que le ballon rond roule en Afrique.
C'est fait, le Mali, pour la première fois de son histoire, qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations Juniors.
Je suis très contente, c'est le Mali quoi. En tant que Malien, on va aller accueillir les footballeurs.
On est très contente que le Mali a gagné. On est très très contente pour les joueurs, pour le peuple aussi.
Vraiment, moi j'ai même pas les mots à dire. C'est la première fois que nos équipes font ça. On veut qu'ils continuent comme ça. C'est important, c'est très important dans un pays qui est en crise, que les jeunes gagnent comme ça. Vraiment, ça nous donne un peu de morale, quoi.
Je dis d'abord félicitations aux jeunes. Ils ont bien mouillé les maillots. Très fiers d'eux.
De la joie dans les rues de Bamako, la capitale du Mali. Et pour cause, le titre de champion d'Afrique de football des moins de 20 ans, il est pour eux, les jeunes Maliens. Merci à Serge Daniel pour ses réactions. Et les Maliens, eux, ils disent merci aux Aiglons sacrés après leur victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Donc, c'était tout à l'heure face au Sénégal. Le score, un but partout, Eric Chorin, puis 3 tirs au but à 2 en faveur du Mali. C'était à Niamey.
Et c'est tout, sauf un hasard, Hugo, ce premier titre de champion d'Afrique des moins de 20 ans du Mali, double champion d'Afrique des moins de 17 ans avec en prime une demi-finale mondiale en 2017. Cette génération continue, on pourrait dire logiquement, mais c'est pourtant très rare de gagner dans la catégorie supérieure. Les Maliens ont d'ailleurs ouvert le score dans ce match après un quart d'heure. Superbe centre du capitaine Hadji Dramé au deuxième poteau pour Boubacar Traoré qui a enchaîné contrôle, crochet et frappe du droit ras de terre pour tromper Diallo Ndiaye. Les Sénégalais commencent alors à subir et à reculer de plus en plus face à des Aiglons qui ont plusieurs fois l'occasion de prendre le large. Le spectre d'une troisième défaite de rang en finale de CAN des moins de 20 ans se profile déjà pour les Sénégalais. Mais après avoir fait le dos rond et plusieurs changements opérés par leur entraîneur Youssouf Dabo, les Lionceaux ont réussi à égaliser à la 75e minute. Amadou Ndiaye, sorti du banc, a trompé Youssouf Koïta d'un retourné rageur après un premier sauvetage du portier malien sur une reprise de volée d'Ibrahima Dramé. Le Sénégal était du coup ragaillardi, il a poussé jusqu'à la fin du temps réglementaire. En vain, il y a eu prolongation. Aucune équipe a pris la domination sur l'autre. C'est donc au tir au but que le match s'est joué. Les Maliens, déjà vainqueurs au tir au but des Nigérians en demi, ont remis ça face aux Sénégalais. 3-2. Champion d'Afrique, le défenseur des Aiglons, Sambou Sissoko, avait du mal à trouver les mots pour exprimer sa joie à l'issue du match.
Ce trophée, c'est une immense joie pour nous, pour le football malien. Ouais, c'est une immense joie pour nous. Je ne sais même pas comment m'exprimer à ce sujet, vraiment. Ça a été très très dur parce que les deux équipes se connaissaient depuis longtemps. On a mis une tactique en place, c'est-à-dire de la laisser jouer. Et on va essayer de défendre pour essayer d'attaquer en contre-attaque. Donc je pense que ça a été la base du match. On va bien fêter ça d'abord et après on va commencer la préparation. La Coupe du Monde.
La Coupe du Monde, ce sera en mai et en juin prochain en Pologne, Hugo. Le Mali pourra y rêver d'une nouvelle demi-finale, hein, comme en moins de 17 ans, ou pourquoi pas mieux. Cette CAN avait pourtant bien mal démarré par une défaite face au Sénégal au premier tour, 2-0. Se souvient encore le sélectionneur malien Mamoutou Kané.
Le départ a été très difficile. Il fallait croire, il fallait insister, il fallait motiver les jeunes pour qu'ils puissent croire qu'on peut continuer. Ils ont cru et la finale, ça nous a souri. Ça a été très difficile quand même. Il faut reconnaître que le Sénégal, c'est une grande équipe. C'est une finale, il faut la jouer, il faut tout donner pour gagner. Donc, c'est ce qu'on a fait.
Ouais, il y a 30 ans, vous avez disputé votre première finale que vous avez ratée. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, vous gagnez cette coupe. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Mamoutou?
Cela représente pour moi une fierté. Une récompense en quelque sorte. En juin 99, en Coupe du Monde en Arabie Saoudite, comme gardien de but. Aujourd'hui, si j'ai eu la chance d'être entraîneur de U20 et le qualifie encore à la Coupe du Monde. 30 après, c'est une fierté pour moi. Mes enfants sauront que leur papa a fait quelque chose.
On a vu un Mali qui avait manqué d'intensité dans la deuxième période de cette finale.
C'est normal. Donc, ils ont forcé. Finalement, là, ils ne pouvaient plus. Ils voulaient aller au tir au but. Nous aussi, on avait préparé cette séance. Ça nous a souri.
Cela a souri aux Maliens, mais pas aux Sénégalais qui perdent donc leur troisième finale consécutive en Cannes des moins de 20 ans. Ils avaient pourtant tout gagné jusqu'à la finale. Le sélectionneur des Lionceaux, Youssouf Dabo.
Les deux équipes se sont données à fond. Chacun, en tout cas, a donné tout ce qu'il avait sur le terrain. Maintenant, on savait que c'est une finale, c'est jamais facile. Il fallait être costaud dans la tête. Comme je l'ai dit aux garçons, c'était la première fois durant ce tournoi qu'on a été mené au score. Je pense que beaucoup de gens se posaient cette question. Comment allait réagir le Sénégal le jour où ils seront menés au score? Tout le monde l'a vu. On a montré beaucoup de personnalité et de caractère. C'est ce que je demande à mes joueurs. Je suis content d'eux, je suis fier d'eux. Ils ont bien représenté le Sénégal. Et durant tout le tournoi, je pense que mon équipe a montré beaucoup de choses positives. Après la troisième finale perdue, les deux passés, j'étais pas là. Maintenant, pour la finale qu'on a fait aujourd'hui, je pense que dans le contenu, on a fait tout ce qu'on devait faire. Maintenant, après, on est parti au tir au but, on perd sur un coup de dé. Après, félicitations au Mali.
Félicitations au Mali, Youssouf Dabo, très sport Hugo au micro d'Ousmane Keïta.
Oui, très fair play le sélectionneur des Lionceaux du Sénégal au pays. En revanche, et on l'imagine bien, la déception était très vive. Ce titre, cette victoire en Cannes, des moins de 20 ans, elle était très attendue. Ce titre était attendu comme le Messi, même à Dakar. La correspondance de Babacar Fall.
Le pays s'est arrêté un moment le temps de cette finale. Même les candidats à la présidentielle de dimanche prochain ont suspendu leur campagne électorale pour regarder le match. Et puis, c'est dimanche, les gens étaient à la maison, devant la télé, espéraient terminer le week-end en beauté avec un premier titre continental pour le football sénégalais. Seulement voilà, les Lionceaux n'y sont pas parvenus. Les supporters ultra déçus se posent des questions. Comment les moins de 20 ans qui ont eu ce parcours dans cette CAN peuvent-ils céder au dernier virage du tournoi? Et face à une équipe malienne qu'ils avaient déjà battue en phase de groupe, s'interroge-t-il? Et avec cette immense frustration de voir cette équipe-là perdre d'affilée trois finales de Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Le manque de concentration des joueurs est pointé sur les réseaux sociaux. Dans les discussions dans la rue, c'est parfois le sélectionneur Youssouf Dabo qui est indexé. Il n'a pas su gérer son groupe dans cette finale, affirment certains. Tandis que d'autres le félicitent, lui et ses joueurs, pour le parcours quand même impressionnant qu'ils ont réalisé dans ce tournoi avec 11 buts marqués en 5 rencontres pour seulement 2 buts encaissés. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Et le Sénégal pourra se consoler quand même avec un ticket pour le mondial de la catégorie des moins de 20 ans qui va se dérouler en Pologne en mai et en juin prochain, avec donc le Mali, vainqueur de cette CAN, mais aussi l'Afrique du Sud et troisième de cette CAN, et le Nigeria qui était donc le quatrième demi-finaliste.
Mondial Sport sur RFI.
Le football, toujours, on reste en Afrique, Eric Chorin. On va filer plus précisément au Gabon, où le championnat professionnel semble avoir trouvé enfin un second souffle.
Ouais, il a en tout cas trouvé un nouveau partenaire financier essentiel qui va lui permettre de reprendre enfin le 23 février prochain ce championnat. Après plusieurs reports, le financement justement de l'État n'étant pas disponible à Libreville. Les explications de Fritz Koum.
Lancé en 2012-2013, le championnat professionnel a bénéficié d'une subvention de l'État qui s'élevait à 10 milliards de francs CFA. Dégressif, ce montant était d'un milliard pour la saison 2018-2019. Mais l'épreuve n'a pas démarré le 13 octobre dernier. L'État, qui a d'autres priorités, n'a pas trouvé l'argent pour le football. Ne voulant pas d'une année blanche, le ministre des Sports a réussi à signer un partenariat avec la société Gabon All Company pour financer le championnat. D'un montant d'un milliard de francs CFA pour une durée d'un an, ce partenariat est un acte historique. Le ministre d'État, Alain-Claude Billier-Binzé.
C'est un acte historique parce qu'il consacre une nouvelle dynamique qui inclut une nouvelle vision du sport avec le retour de l'entreprise dans le financement du sport. Comment démarrer une compétition en étant sûr de la terminer? Comment sortir de la hantise, de la dépendance, des fluctuations du trésor public pour financer nos activités sportives? La solution, c'est d'impliquer les partenaires privés qui, eux, savent qu'on engage une compétition, on la commence tel jour à telle heure, on la termine tel jour à telle heure parce qu'entre-temps, chacun trouve son intérêt.
Pour la Ligue nationale de football qui va gérer l'argent donné par le sponsor, l'élaboration du nouveau calendrier a été facile. Le président Brice Ndjambou Mbika communique le nouveau format de l'épreuve qui ne se jouera plus en poule unique.
Nous avons mis en place un championnat avec 4 poules. 2 poules de 4 équipes, 2 poules de 3 équipes. L'objectif, c'est de faire en sorte que les équipes jouent au maximum de matchs en plusieurs phases aller-retour à l'intérieur d'une poule. Au sortir de là, nous débouchons avec 6 clubs qui joueront une phase de play-off. Et un play-off qui, pour cette année, ne se jouera pas en formule coupe, mais en formule championnat parce que les équipes vont s'affronter entre elles.
Avec l'arrivée d'un sponsor, il faut mettre en place un mécanisme de contrôle, soutient Paul Kessani, l'ancien capitaine des Panthères.
L'État avait donné beaucoup d'argent depuis 2012 pour le financement du championnat national. Et au final, nous sommes retrouvés avec des clubs qui n'ont jamais décollé et des joueurs toujours impayés. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, on n'avait pas mis les mécanismes de contrôle qui permettraient justement de surveiller l'action de la LINAF, la gestion de cette manne et surtout l'accompagnement des clubs vers une structuration.
L'association des footballeurs espère que la reprise du championnat va favoriser la sélection des joueurs locaux en équipe nationale. Michel Doussengui, membre du comité exécutif.
Les footballeurs ont dit qu'ils veulent avoir une chance d'être vus à l'international, d'être en équipe nationale, mais tout dépend de l'organisation du championnat. Pour le championnat national, il y a de la qualité et il faudrait regarder aussi du côté de ces joueurs-là, parce que derrière, il ne suffit pas de jouer en 3e ou en 4e division à l'étranger, en Europe, pour pouvoir prétendre à une place en équipe nationale.
Après une longue période de préparation sans compétition, la reprise ne sera pas facile, soutient Rigobert Nzamba, entraîneur adjoint de l'équipe nationale des moins de 23 ans.
Nous allons voir déjà au niveau de la qualité des jeux, ça va quand même payer parce que beaucoup de clubs se sont presque épuisés parce que combien de mois de préparation ils ont eu à faire. C'est vrai qu'ils ont fait des matchs amicaux, mais est-ce que ces matchs étaient des matchs de qualité parce qu'ils s'attendaient à un début du championnat? Avec l'effort que le ministère a eu à faire de trouver un sponsor, c'est déjà important pour que ces enfants soient en jambes, mais même s'ils sont en jambes, prions que ça ne s'arrête pas encore comme d'habitude.
Le coup d'envoi du championnat sera donné le samedi 23 février à Mouila. Le promu AS Dikaki recevra Mangasport de Mwanda. Fritz Koum, Libreville, RFI.
C'est tout pour le football africain ce soir. Ce n'est pas encore tout pour vous. En revanche, Eric Chorin, vous reviendrez tout à l'heure pour nous parler basketball à tout à l'heure. Le ballon rond sur le vieux continent à présent se disputait notamment ce week-end la 24e journée du championnat espagnol, la Liga. Bonsoir François David.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Alors vous êtes le correspondant de RFI à Barcelone. On va parler du Barça bien sûr, mais on va d'abord évoquer le résultat d'un autre club catalan, Gérone. Gérone qui a joué un mauvais tour au Real Madrid ce dimanche, puisque les Merengues se sont inclinés 2-1 à domicile. Et c'est clairement un coup d'arrêt pour les hommes de Scolari.
Ah bah clairement oui Hugo. Alors que l'on pensait le Real Madrid en pleine renaissance, eh bien les hommes de Santiago Solari ont chuté ce midi au Stade Santiago Bernabéu face au Catalan de Gérone, vous l'avez dit. Alors c'est la 11e défaite cette saison des champions d'Europe en titre et il faut remonter à la saison 2012-2013, soit la dernière saison de José Mourinho sur le banc du Real Madrid pour retrouver des statistiques aussi compliquées pour le champion d'Europe en titre, le Real qui restait pourtant sur plusieurs victoires consécutives en Liga et qui avait réussi à mettre la pression sur le FC Barcelone, l'actuel leader du championnat d'Espagne. Mais voilà, le Real s'est relâché après l'ouverture du score de Casemiro en première mi-temps et finalement a été totalement mangé par Gérone après la pause. C'est surtout en fait cette sensation de baisser les bras qui inquiète au Real Madrid et cette sensation que finalement la Liga, eh bien c'est pas très important, que seul compte la Ligue des Champions, où effectivement le Real a gagné les 3 dernières éditions, et qui m'ont aussi, ils ont gagné sur le terrain de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions cette semaine, mais ça ne durera pas tout le temps, le Real Madrid ne gagnera pas toutes les compétitions européennes. Donc un dimanche assez triste à Madrid, d'autant que Sergio Ramos a été expulsé, et c'est la 25e fois de sa carrière que Ramos est expulsé, la 20e en Liga. Et c'est le joueur dans l'histoire du football espagnol qui a été le plus expulsé dans sa carrière, le capitaine de la sélection espagnole, Ramos.
Sergio Ramos, fidèle donc à sa réputation ce dimanche. On va revenir à présent sur les résultats d'hier, François, pour parler du Barça. Donc, le Barça qui n'a pas non plus régalé, mais le leader de la Liga a tout de même gagné, lui, 1-0 devant Valladolid ce samedi. Alors, question, François, comment vont les Blaugrana avant d'affronter Lyon en 8e de finale aller de la Ligue des Champions? Ce sera mardi sur RFI.
Il faut toujours se méfier des grandes équipes, effectivement. Hier, ça n'a pas été un grand Barça face à Valladolid, avec le promu en plus cette saison. Un match sans feeling, comme titrait ce matin le quotidien catalan El Mundo Deportivo dans son édition dominicale. Alors, effectivement, c'est un match sans grande intensité. du côté du Barça et où Ernesto Valverde, d'ailleurs prolongé cette semaine par les dirigeants du FC Barcelone, eh bien Valverde a fait reposer quelques cadres comme Luis Suarez. Alors le Barça s'est imposé par la plus petite démarche, 1-0, grâce à un but sur pénalty de Lionel Messi, Messi qui a raté d'ailleurs un pénalty en deuxième période, mais c'était un Barça, pour vous dire, finalement assez inoffensif, sans envie, où l'on sentait que les Catalans finalement avaient plus peur de se blesser que de vouloir mettre plus de buts hier soir, car vous l'avez dit, hein, le grand match de la semaine se jouera mardi prochain à Lyon sur RFI. La Ligue des Champions, c'est le grand objectif du Barça cette saison, après avoir été éliminé en quart de finale ces trois dernières saisons. Mais un Barça, Hugo, qui va devoir s'améliorer, car comme l'expliquait Gérard Piqué après la rencontre, je cite, « Si nous ne nous améliorons pas avant mardi, ça va être très compliqué pour nous. » En revanche, Hugo, au niveau comptable, le Barça a fait la très très bonne opération. Le Barça, plus que jamais leader de la Liga avec 7 points d'avance sur l'Atlético et 12 points d'avance sur le Real Madrid.
J'en profite pour vous demander des nouvelles de Samuel Umtiti, le natif de Yaoundé, ancien Lyonnais, défenseur du Barça. Sera-t-il là mardi face à Lyon pour revenir dans son ancien jardin?
En tout cas, Umtiti a tout fait pour être là contre Lyon en Ligue des Champions. Il a été convoqué, c'est la grande nouvelle de la journée. Il a été convoqué par Valverde pour affronter l'Olympique Lyonnais ce mardi prochain. On verra s'il est titulaire. Normalement, Valverde le fait jouer toujours comme titulaire. Ça a été le cas en septembre dernier. Ça faisait très longtemps qu'il ne jouait pas titulaire. Et c'était le cas aussi en novembre dernier contre l'Atlético de Madrid, où après plusieurs semaines d'absence, il avait joué aussi comme titulaire. Donc on verra ce que va décider le coach du Barça. Mais je pense, moi, que l'option Clément Lenglet sera peut-être privilégiée par le technicien du Barça.
Samuel Umtiti, on le rappelle, blessé au genou depuis longtemps, depuis le mois de novembre dernier. On rappelle également qu'en France, Lyon, le futur adversaire de Barcelone, donc en Ligue des Champions, s'est imposé vendredi face à Guingamp, 2-1. Courte victoire face à un très mal classé pour l'OL. C'était à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, une journée qui se referme en ce moment même. Le PSG est sur la pelouse de Saint-Etienne, le leader sur le terrain du 4e et pour l'instant. Paris mène 1-0, il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. Kylian Mbappé, à environ un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, a fait la différence. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc, après l'Espagne, après la France, l'Italie, Matteo Cioffi est en ligne. Ciao Matteo.
Bonjour, bonjour Hugo.
24e journée de Serie A au programme ce week-end. Naples, deuxième du classement, a concédé le match nul, si je ne dis pas de bêtises, à domicile, 0-0 face au Torino. Matteo, le Napoli qui vient de dire adieu à une de ses légendes, le Slovaque Marek Hamšík. Ce n'est pas Maradona, mais tout de même, il n'est pas loin du Pibe d'Oro dans le cœur des tifosi du Napoli.
Non, absolument pas. Marek Hamšík est une légende, c'est un synonyme vraiment de napolitain, même chez les Slovaques. Il a vraiment écrit l'histoire du Napoli. C'est lui qui tout d'abord a marqué le plus de buts avec le dossier napolitain, 121, qui a disputé le majeur nombre de rencontres, 520 matchs, et c'est lui aussi qui a joué le plus de défis au niveau européen, 80. Donc les Napolitains n'oublient jamais Marek Hamšík, et pour lui, comme le président Aurelio De Laurentiis a déclaré hier, les portes ouvertes dans le club si un jour il voudra être un dirigeant de ce club.
Quelque chose à nous dire sur le match du jour, le match du Napoli? Pas grand chose. Oui, je rappelle ce 0-0 contre le Torino,
oui,
à domicile.
C'était un 0-0, un nul qui correspond pratiquement à un coup d'arrêt pour l'équipe de Carlo Ancelotti, qui conduit la rencontre mais ne voit pas ses efforts devenir efficaces. Et ce soir, l'écart vers la Juve est monté donc à 13 points.
La Juventus qui s'est imposée vendredi, on en parle dans un instant. D'abord, on va évoquer le troisième du classement de ce championnat d'Italie, l'Inter Milan, qui nage en plein psychodrame, en pleine telenovela, puisque une partie des protagonistes sont sud-américains, argentins plus précisément. Il s'agit du feuilleton Icardi, du nom du capitaine déchu de l'Inter Milan, Matteo. Pourtant, malgré ce psychodrame sur lequel vous allez revenir, l'Inter s'est imposé face à la Sampdoria de Gênes ce dimanche.
Oui, en effet, sans Mauro Icardi, ancien capitaine de l'équipe, l'Inter aujourd'hui s'est imposé 2-1 face à la Sampdoria, un adversaire pas simple. Icardi non convoqué, le club a expliqué que le joueur n'était pas au 100% du point de vue physique, mais tout le monde sait que la cause de l'absence est due au bras de fer entre les dirigeants et la femme du joueur, Vandanari, qui est aussi l'agent de l'attaquant. Sur la table, le contrat de Icardi et sa valeur économique. Que l'Inter est disposé à reconnaître 7 millions par saison aux joueurs jusqu'en 2021. La femme agent en réclame pas moins de 10 millions. Les rapports donc sont très tendus entre les dirigeants et l'agent du joueur. C'est une guerre ouverte. Icardi pour l'instant a été exclu par Luciano Spalletti. Les tifosi de l'Inter sont à côté du club et sont fatigués par le comportement de cet attaquant et de sa femme. Pour la majorité des supporters, l'Argentin est un mercenaire et ne mérite pas d'être capitaine de l'Inter, ni d'y jouer.
Les tifosi de l'Inter Milan très durs envers leur ancien capitaine Icardi, l'Argentin. Des nouvelles, comme promis Matteo de la Juventus Turin, à présent une vieille dame toujours aussi robuste en championnat et qui se prépare à disputer un véritable choc en Ligue des Champions.
Oui, il faut dire que mercredi soir, la Juve entame un nouveau championnat, sans aucun doute le plus important de cette saison, car la Ligue des Champions est l'objectif numéro un du club torinois. L'équipe de Max Allegri se présente à ce rendez-vous avec toutes les pièces à leur place, l'infirmerie est vide, la défense a retrouvé son duo gagnant Bonucci Chiellini qui se sont rétablis de leurs blessures, et avec eux, la Juve encaisse la moitié des buts. En plus, on a Ronaldo ne s'arrête pas de marquer, il est en ce moment le meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations. Dybala, à son côté, perfectionne une entente qui, match après match, devient toujours plus solide. Donc, vous voyez, que de bonnes nouvelles pour Max Allegri qui a demandé quand même un effort à tous ses joueurs et surtout il a déclaré qu'il faudra, pour se qualifier, marquer un but au Wanda Metropolitano. Si on marque, on passe en quart de finale.
Voilà les prédictions de Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus Turin, qui s'est donc imposé vendredi 3-0 à domicile face à Frosinone. Merci Matteo Cioffi, grazie. Votre accent italien est bien meilleur que le mien. On vous retrouve rapidement dans Mondial Sport, Atlético Juventus. On en parlait donc, huitième de finale aller de la Ligue des Champions. C'est mercredi, tout comme Schalke Manchester City. Mais le plus important, et j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe mardi. Liverpool, Bayern Munich. Oui, oui, c'est alléchant, mais il y a surtout Lyon-Barça à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Soyez au rendez-vous. On va refermer cette longue et belle page football dans Mondial Sport avec un dernier hommage à Emiliano Sala, l'ancien buteur argentin de Nantes, parti trop tôt, victime d'un accident d'avion le 21 janvier dernier, au-dessus de la Manche, à 28 ans. Il se rendait à Cardiff, au Pays de Galles, c'est là-bas qu'il devait poursuivre sa carrière, et c'est en Argentine qu'ont eu lieu ses funérailles. Hier, le corps de Sala est éveillé dans la salle de sport du club où il avait fait ses débuts, San Martín, c'est un club de la petite ville de Progreso, situé dans la province de Santa Fe, à plus de 500 km de la capitale argentine, Buenos Aires. Voilà, c'est là qu'ont eu lieu ses funérailles, sa famille bien sûr, la population locale, les gens du coin, mais aussi des représentants des clubs de Nantes et de Cardiff étaient présents. Le reportage de Jean-Louis Buchy.
Après la cérémonie religieuse, le cercueil quitte la salle de sport du club San Martín sous les applaudissements. Il est porté par 6 hommes, dont le père et le frère d'Emiliano Sala, mais aussi Nicolas Palois, son grand ami du FC Nantes, particulièrement ému. Dans la foule qui suit le départ du cortège funèbre, beaucoup d'habitants de Progreso et de Cululu, le village natal d'Emiliano bien sûr, mais d'autres sont venus de plus loin, comme Edgardo, qui habite Santa Fe, la capitale provinciale.
Je suis professeur de gym et l'année dernière j'ai travaillé au club Union de Santo Domingo, un village proche qui est le grand rival de San Martín de Progreso. Quand on joue notre classico, il y a beaucoup de monde et c'est cette rivalité qui me permet de vous raconter une anecdote qui explique pourquoi je suis là. Une des dernières fois qu'Emiliano est venu à Progreso, alors qu'il était déjà une vedette à Nantes, il a demandé au président de San Martín s'il pouvait inviter des amis au club. Le président lui a répondu « Mais Emiliano, le club est un peu à toi quand même. Et oui, parce que si la salle de sport a été terminée, c'est grâce à un pourcentage versé par le FC Nantes sur le transfert d'Emiliano au titre du droit à la formation. Ça vous montre quel genre de type était ce garçon.
Avant de se rendre au crématorium de Santa Fe, où un dernier hommage sera rendu à Emiliano, le cortège fait une halte à l'entrée de Cululo. C'est là que nous rencontrons Rosa Solterman, qui prend le frais devant sa maison.
Je connais bien les salas, ils habitaient là, à deux maisons de la mienne. Vous voyez, c'est la maison natale d'Emiliano. Ensuite, très jeunes, ils sont partis s'installer à Progresso. Mais j'ai toujours eu de bonnes relations avec eux, surtout avec le père qui travaillait avec mes enfants. Et bon, c'est comme ça qu'Emiliano a commencé sa carrière. D'abord au club San Martín de Progresso, comme tout le monde sait, puis à San Francisco où il est entré dans un centre de formation lié à Bordeaux. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'imposer en France. Ici, on le suivait, bien sûr, plus qu'ailleurs dans le pays, où il était moins connu parce qu'il n'avait pas joué dans de grands clubs argentins. Mais ici, tout le monde se connaît. Et c'était un garçon très aimé, parce qu'on savait qu'il était très humble. Il a beaucoup aidé le club San Martín aussi. Il était simple, comme sont les gars de la campagne. Sa mort nous a beaucoup marqués.
Plus qu'au footballeur, c'est à l'enfant du pays qu'on a dit adieu ce samedi dans les vertes campagnes de Santa Fe. Jean-Louis Buchet, à Progresso et Cululu en Argentine, RFI.
Les adieux à Emiliano Sala, footballeur argentin parti beaucoup trop tôt.
Mondial Sport, votre rendez-vous sportif.
Le basketball pour refermer votre rendez-vous sportif. L'Africa League de basket à Antananarivo, à Madagascar, où les derniers matchs du groupe D n'étaient pas déterminants. Éric Chorin.
Les Égyptiens de ce mois et les Angolais du Petro Atlético Hugo étaient déjà qualifiés depuis hier, donc pour l'équivalent à des quarts de finale de l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions. Du coup, le seul enjeu du jour, c'était la première place du groupe. Elle est revenue au ce mois Sporting Club, la formation d'Alexandrie victorieuse du Petro Atlético de Luanda 79-62. L'autre match du jour, lui, a permis aux Congolais du basket club Mazembe de sauver l'honneur en dominant les Malgaches du Knops devant leur public 94-70. Le club de Lubumbashi était emmené dans cette compétition par son capitaine Gégé Kizubadata, 37 ans, passé par les championnats angolais et tunisiens. Sarah Teto est revenu avec lui sur la compétition en détail et avec le sourire de Gégé.
Côté organisation, donc positif, il n'y a pas eu d'incident, donc ça s'est très bien passé, ça vraiment, ça déjà de ce côté-là.
En mieux par rapport aux années précédentes ?
Beaucoup mieux.
Sur quel point par exemple ?
Le premier point, c'est par rapport au développement. Quand je dis développement, ça avait donné la possibilité aux équipes de pouvoir se déplacer et acquérir plus d'expérience. Pourquoi ? Parce que les jeunes n'ont jamais cette opportunité-là. Avec cette nouvelle formule, ils peuvent se déplacer, l'effet d'aller affronter les autres, ça donne plus de possibilités aux jeunes de pouvoir se mettre dans le professionnalisme. Du côté formule, la FIBA prend en charge les 8 dernières équipes. Ça veut dire qu'il y a plus de moyens, il y a plus de finances, et quand il y a plus de finances, il y a un développement qui suit automatiquement.
Bon, malheureusement, le BC Mazembe ne profitera pas, on va dire, de ce surplus de financement, puisque vous venez d'être éliminé. Donc, deux matchs perdus sur trois. En revanche, vous venez de gagner celui-ci contre l'équipe malgache. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dernier match de la compétition pour vous ?
C'est une déception pour nous, c'est sûr, parce qu'on n'a pas fait ce voyage pour venir être troisième, pour ne pas être qualifié. Mais bon, c'est la loi du sport, le plus fort gagne. Ils se sont mieux préparés, c'est la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions, c'est les champions de chaque pays. Vous comprendrez que Petro a dû batailler contre Primeiro da Gauche, a dû batailler contre Inter, contre Aza, contre Recreativo. Ismoa a dû se battre contre El Ali, plusieurs équipes. Ça veut dire que ce sont des équipes qui ont mis les moyens. Ils sont venus avec des étrangers, vous avez vu. Il y a des Américains qui ont participé à ça. Donc nous, on était venus entre nous, Congolais, en retard, tout ça. Donc déception.
Déception, mais on vous voit encore là. Alors qu'en 2018, on avait lu dans la presse que Gégé Kizubadata devait prendre sa retraite. Là, vous approchez les 38 ans. Il ne faudrait pas le dire, mais quand même, on va le dire. Mais vous êtes encore hyper en forme.
Je reste sportif malgré la fin de carrière. J'avais annoncé en 2018, fin de carrière professionnel. Ça veut dire que j'aurai plus de contrat pro pour ne plus participer à des championnats extérieurs hors de mon pays. Je suis encore sur le plan local parce que c'est BC Mazembe qui est en RDC qui se déplace pour l'étranger. Ça, je peux encore participer. Mais sur le plan professionnel, aller prendre 9 mois de ma vie, disons, je vais m'occuper maintenant de mes affaires, de ma famille, prendre le temps et pourquoi pas rejoindre les papas, les tontons de la FIBA pour les donner un coup de pouce, pourquoi pas.
On vous voyait à l'issue du match prendre des selfies avec des jeunes filles du public malgache. Ça veut dire que ici aussi, vous faites chavirer les foules ?
Oh oh, bon, elles ont aimé le match. Et puis, à la fin, elles m'ont demandé de faire des selfies. Je ne pouvais qu'accepter. Elles étaient super sympas parce que généralement, quand vous gagnez à l'extérieur, les gens sont un peu hostiles vis-à-vis des gagnants. Donc là, ce n'était pas le cas.
Donc une belle expérience en termes malgaches.
En tout cas, c'est une première pour moi ici et je voulais vraiment participer, venir. Donc ça m'a vraiment fait plaisir.
Oh oh, GG Kizu Banata avec Sarah Teto à Madagascar.
Une bonne manière de se dire au revoir. Très bonne soirée à vous tous à l'écoute, bien sûr, de RFI.